Bonjour à tous, bonjour Anne-Cécile.
Bonjour Arnaud.
Aujourd'hui, nous allons parler de la question très discutée du charbon propre, Anne-Cécile.
Eh oui, propre ou pas propre, là est la question, parce qu'on sait que le charbon est la ressource fossile qui émet le plus de gaz à effet de serre. Alors arrivera-t-on à faire de l'énergie en utilisant le charbon d'une manière propre? Certains y croient.
Un des gros problèmes du captage et du stockage, c'est qu'on reste dans le même système énergétique basé sur les fossiles et qu'on continue dans cette voie-là qui nous a mené à la crise climatique dans laquelle on est et qu'on ne se pose pas la question du changement nécessaire de modèle énergétique. Le prix du charbon a doublé en quelques années. C'est une ressource qui reste limitée alors qu'on a des potentiels d'efficacité et d'énergie renouvelable et donc infinie qui sont énormes.
À l'heure où le monde se mobilise pour essayer de diminuer les émissions de gaz à effet de serre qui sont responsables de l'augmentation du réchauffement climatique, le retour de l'exploitation du charbon, qui est un très gros émetteur de gaz à effet de serre, est pour beaucoup vécu comme une catastrophe. Mais l'idée d'un charbon propre dont on aurait capté, stocké le CO2 rendrait cette ressource énergétique vertueuse, en tout cas pour les 250 ans de réserves mondiales existantes. Le charbon propre, un reportage de Sépidé Farcondé à découvrir tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission.
Aucune civilisation ne peut tenir si elle n'a pas un minimum d'équilibre avec l'écosystème sur lequel elle vit. Parce que de toute façon, si elle l'épuise complètement, comme on est en train de le faire, eh bien, il n'y a pas de durée de vie possible pour cette civilisation.
Mais tout de suite, et c'est le jeu de cette première partie, on décortique l'actualité environnementale avec vous, Alain Guinbaud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général du GERES. Le GEREP, c'est le groupe Énergie Renouvelable, Environnement et Solidarité qui accompagne depuis 25 ans des acteurs du développement économique local en Méditerranée, dans les pays du Sud et en Asie centrale, dans le domaine du développement, de l'énergie, de l'agroalimentaire. Hein, vous êtes multi-activité, on va dire. Mais quelle est la philosophie de base ?
Bonjour, donc la philosophie de base c'est le GERES a été créé en 76 après le premier choc pétrolier. Donc la philosophie de base c'est utiliser le mieux possible l'énergie que l'on a. À l'époque c'était pour des raisons économiques, aujourd'hui on sait que c'est pour des raisons climatiques et encore économiques. Et donc c'est le peu d'énergie que l'on a, on doit l'utiliser intelligemment et en même temps ça doit aider les pays du Sud à se développer parce que sans énergie, pas de développement. Et l'enjeu est de déconnecter, la quantité de développement et la quantité d'énergie dont on a besoin.
Alors pour commencer ce tour de l'actualité, Arnaud, on part au Togo.
Oui, dans le cadre des négociations pour obtenir un accord au sommet climat de Copenhague, l'Afrique veut se positionner et faire entendre sa voix, avec le crédit carbone forestier. Et pour ce faire, depuis ce matin à Lomé au Togo, on procède au lancement du marché africain de ce crédit carbone forestier, une manifestation que notre correspondant Peter Dogbé suit pour nous. Et Peter Dogbé qui est avec nous d'ailleurs au téléphone depuis Lomé. Bonjour Peter.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous.
Alors Peter, qu'est-ce que c'est que ce marché africain du crédit carbone forestier ?
Eh bien pour les organisateurs, ce marché est la nouvelle économie, l'économie verte, incluant la forêt dans les mécanismes de lutte contre le réchauffement climatique et l'absorption du gaz carbonique. Cette nouvelle richesse, selon les organisateurs, va donner à l'Afrique une manne, une importante manne. Cette manne de crédit de carbone touchera toute l'Afrique, y compris les pays qui n'ont pas de forêt. Et comme vous le savez, dans le protocole de Kyoto, ni l'Afrique ni la forêt n'ont pas été objet de discussion. À partir de ce marché, l'Afrique se positionne donc, comme vous l'avez dit, pour la prochaine discussion de Copenhague.
Alors, quel est l'objectif de ce marché ?
Eh bien, le premier objectif, c'est prouver au monde que l'Afrique et l'Anglo-African Energy Group, qui organisent tout cela, vont devenir actifs dans le domaine de crédit carbone forestier, sans oublier le protocole de Kyoto. Et puis, ce sera aussi pour l'Afrique de pouvoir gérer des milliards de dollars de revenus dans les années à venir pour son développement si elle sait entretenir ses forêts. Enfin, l'Afrique est prête désormais à faire entendre sa voix lors des futures négociations des sommets de Copenhague en décembre 2009 à partir de ce crédit forestier.
Alors, qui participe à cette manifestation ? Quelles seront les retombées pour l'Afrique et particulièrement pour le Togo ?
Eh bien, ils sont venus de partout, des 5 continents, ceux qui participent à cette rencontre-là. Les retombées sont avant tout financières, Selon les organisateurs de ce marché, les États-Unis prévoient l'achat de plus d'un milliard de tonnes de crédits de carbone issus des forêts des pays en développement, donc pratiquement l'Afrique, puisqu'on dit que le Brésil, par exemple, n'est pas intéressé par le crédit carbone forestier. Pour le Togo, il saura mettre peut-être en place sa place, il saura profiter de sa place financière qu'elle occupe au niveau des institutions financières régionales et sous-régionales pour se positionner.
Merci Peter Dogbe. Alain Guinbo, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative?
Beaucoup de choses. Je dirais, première chose, enfin. C'est-à-dire que globalement, ouais. Enfin, l'Afrique accède aux mécanismes de financement de protocole de Kyoto. Aujourd'hui, ce sont les émergents, les grands émergents qui en ont tous profité, qui ont tout raflé. Et donc, je dirais, tant mieux. Après, il y a forcément quelques réserves. Parce que d'une part, il ne faudrait pas que ça se substitue à l'aide au développement. On sait que c'est la tendance. Et aujourd'hui, en France, on est dans cette tendance de dire on réduit l'aide au développement et puis on invente des nouveaux mécanismes, une taxe ci, une taxe là. Je pense que c'est pas le bon signal. Je pense qu'il y a quelque chose pour moi d'important, c'est que gérer les forêts pour générer de la ressource, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé, toutes les coopérations bilatérales ont travaillé là-dessus depuis très longtemps et souvent avec beaucoup de difficultés. Alors c'est pas forcément l'injection de milliards qui va forcément changer le problème. Les solutions techniques sont connues. Ce qui est beaucoup moins connu et beaucoup moins abouti, c'est le dialogue politique entre les États et les acteurs, parce que ce sont les populations qui vivent dans ou avec la forêt. Et ça, il faut vraiment pas l'oublier, c'est vraiment le gros point. Et un dernier petit point, si vous me le permettez, agir sur la forêt, donc gérer durablement la biomasse, ça me semble indispensable. En parallèle, il faut absolument économiser l'énergie. En Afrique, la biomasse est 80% des bilans énergétiques, donc ça veut dire que globalement, tout ce qu'on voit, on voit les taxis à Lomé, etc. Mais ça, c'est la petite goutte d'eau du bilan énergétique des pays africains. 80% d'énergie, c'est du bois. Et ce bois est utilisé avec des rendements de 10% pour cuire, etc. etc. Donc 90% de la biomasse de la forêt togolaise part en fumée. Donc, en parallèle de la gestion durable de la biomasse, il faut aussi travailler sur la promotion de l'efficacité énergétique.
Alors justement, vous avez un projet très concret au Cambodge, d'ampleur nationale d'ailleurs, pour lutter contre la déforestation et le gaspillage du bois.
Voilà, tout à fait. Alors je dirais qu'au Cambodge, on a, pour des raisons, je dirais stratégiques, on a pris le chemin inverse, c'est-à-dire qu'on a commencé par agir sur les questions d'efficacité énergétique, donc promouvoir des foyers améliorés qui économisent 20% de bois. Aujourd'hui, c'est grâce à des mécanismes de marché locaux, c'est-à-dire il y a une trentaine d'entreprises qui fabriquent ces foyers améliorés, sans subvention, 30 000 sont fabriqués chaque mois et diffusés sur le marché. Aujourd'hui, 600 000 ménages utilisent ces foyers améliorés. Et je devrais aller, je pense, dans une quinzaine de jours, présenter à la CDEAO à Ouagadougou les résultats de ce projet pour voir comment on peut transférer ça aux pays africains.
With the sunrise, rise and shine is but a lie. Lie down again before I even see seed cakes freshly baked for me. You stand up and I'm thinking. Up with the sunrise, rise and shine is but a lie. Lie up, that is my other middle name. Name and shame me, please, please me. You take me for your new queen. Queen cakes are beyond your means. Means I will never ask. Such a precious story, or you'll be my foil.
Sandy dans C'est pas du vent sur RFI. Et c'est le moment de nous intéresser à l'actualité environnementale d'un continent. Aujourd'hui, zoom sur l'Europe.
Et l'Europe, c'est avec vous, Vincent Soriot. Bonjour.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous.
Alors, l'actualité du jour, c'est l'Union européenne mise à l'index pour son retard dans le recyclage des piles et des batteries.
Et oui, c'est une étude de l'association professionnelle des recycleurs européens, l'EBRA, qui sonne l'alarme. Que dit-elle ? Eh bien, qu'en moyenne, les pays de l'Union n'ont recyclé que 14% des piles et des batteries en 2008. Un chiffre qui ne vous effraie peut-être pas, et pourtant les directives européennes imposent un taux de recyclage des batteries de 25% d'ici 2012. Autrement dit, en trois petites années, les pays les moins performants dans ce domaine vont devoir cravacher pour rattraper leurs voisins, car comme le rappelle Emmanuel Beaurepaire, le secrétaire général de l'EBRA, tous les pays ne sont pas égaux devant le recyclage des batteries, et les disparités s'expliquent notamment par des raisons historiques.
Un certain nombre de pays, et notamment ceux qui ont atteint des objectifs à des niveaux très élevés aujourd'hui, comme la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, etc., c'est parce qu'ils sont partis tout de suite sur une collecte et un recyclage de l'ensemble des piles et accumulateurs. Alors que les autres pays qui ont purement et simplement transposé cette première directive de 91 sont restés avec des objectifs pour collecter ces piles et batteries, mais dans des secteurs différents où il y avait des technologies concurrentes, et du coup ont été dans l'incapacité d'atteindre ces objectifs parce qu'on mélangeait un peu tout.
Alors pour certains pays qui ont pourtant rejoint l'Union il y a bien longtemps, les chiffres sont catastrophiques. L'Espagne, par exemple, atteint péniblement la barre des 5%. Concrètement, cela veut dire que l'année dernière, seulement 767 tonnes de batteries y ont été recyclées sur un total de 15 000 tonnes produites.
Alors à la décharge de ces pays, il faut rappeler que ce type de collecte et de recyclage répond à de lourdes contraintes.
Effectivement, c'est un processus spécifique, difficile à mettre en place et surtout sur lequel il faut beaucoup communiquer, ce qui n'est pas toujours évident.
Pour la France, c'est un vrai sujet. Contrairement à la Belgique, les Pays-Bas ou par exemple la Suisse, il y a toujours eu dans ces pays-là, parce qu'il y a un organisme unique, des campagnes nationales, des campagnes de communication nationales financées par l'organisme unique. En France, la difficulté, c'est qu'on a une dizaine d'opérateurs. Quelle sera la conséquence de ça, in fine ? C'est qu'on va avoir des opérations de communication beaucoup plus limitatives par chacune des structures, et que le poids de la communication va être beaucoup moins important vis-à-vis du grand public. En Belgique, pour arriver à 60%, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Il y a eu des campagnes de publicité à la radio pour inciter le consommateur. En France, on n'a jamais vu ça. On voit des campagnes un peu d'affichage, des dépliants à droite à gauche, mais pas suffisamment pour que le consommateur en permanence soit interpellé et motivé à apporter ses piles et accumulateurs usagés.
La solution, ce serait donc l'incitation. Autrement dit, il suffirait d'amener le consommateur jusqu'au point de collecte pour régler le problème.
Sauf que, comme souvent, il y a de la marge entre la théorie et la pratique.
Et oui, la preuve, dans un sondage IFOP paru en 2008, l'année dernière, 58% des Français disaient déposer leurs piles dans les points de collecte. En réalité, on n'en retrouve que 30% dans les urnes prévues à cet effet.
Le français est filou.
Exactement, un paradoxe apparent, mais bien connu des professionnels.
La pile reste parmi les déchets domestiques un produit dont le consommateur se dit « Oh là, ça doit contenir des substances qui ne sont pas très très bonnes pour l'environnement, donc ce serait bien que je les rapporte. » Mais en même temps, il y a quelque chose qui est phénoménal, c'est le hoarding. Le hoarding, c'est quoi ? Ce sont des piles et accumulateurs usagés ou semi-usagés, ou en tout cas qui potentiellement peuvent se retrouver dans les déchets ménagers, et que les gens gardent chez eux. Faites le tour chez vous. Allez regarder dans un tiroir, dans une boîte à eau chaussures, dans ceci, dans cela, dans des appareils. Il y a des appareils qu'on n'utilise plus. Chez moi, j'ai un couteau électrique sans fil, avec un accumulateur à l'intérieur. Je ne l'utilise plus, mais il y a toujours l'accumulateur dedans. Donc on en a un peu partout à la maison. On ne s'en rend pas compte. Alors, dans ces périodes de Grenelle de l'environnement, de Journée de la Terre et tout, un conseil qui serait utile pour tous les citoyens de France et du monde, ce serait d'aller effectivement faire le tour de la maison et de regarder toutes les piles et tous les accumulateurs usagés et tout ce qui est rechargeable que l'on a à droite à gauche et qui finalement ne servent à rien et qu'on ferait mieux de rapporter dans les dispositifs de collecte.
Voilà, est-ce que vous connaissiez le hoarding ?
Non, mais ça y est, maintenant on est avisé.
Eh bien, ça s'écrit H-O-A-R-D-I-N-G et ça consiste donc à entasser chez soi des tas d'appareils ménagers sans jamais faire le tri. Alors pour le bien de la planète et pour recycler les piles et les batteries, c'est bien le moment de faire un effort.
Merci Vincent Soriot.
n'est pas du vent, @rfi.fr.
Alain Guimbaud, une petite réaction. Vous connaissiez, vous, le hoarding?
Le hoarding, non, mais je le pratique un petit peu comme tout le monde. Et j'aimerais bien savoir comment on pourrait le traduire, d'ailleurs. Et un autre point, c'est que moi qui suis beaucoup à l'extérieur, donc qui vois l'Europe des yeux un petit peu des gens du Sud, je crois que c'est vraiment l'exemple typique de l'Europe, l'Occident, les pays riches, donneurs de leçons et incapables de faire ce qu'il faut chez eux, quoi.
Alors, on le disait, hein, vous êtes le directeur général du GERES, le groupe Énergie Renouvelable, Environnement et Solidarité. Alors, vous venez de sortir un outil pédagogique sur l'utilisation de l'énergie en Afrique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le but de cet outil, le contenu et comment on peut l'obtenir?
Pourquoi déjà? Pourquoi? Parce que je pense qu'un certain nombre d'auditeurs comprendront très bien que en Afrique, je crois que uniquement quelques pourcents de la population a accès à des sources d'énergie modernes. Et on sait que les sources d'énergie modernes, l'électricité, le gaz, etc., c'est un vecteur de développement. Que l'énergie, je le disais tout à l'heure, est utilisée de manière très inefficace, etc., etc. Donc notre objectif, c'est de donner au public non spécialiste de l'énergie les clés de compréhension. Donc l'énergie, à quoi ça sert? Donc ça sert à cuisiner, ça sert à pomper l'eau, ça sert à transformer, à conserver les produits agricoles, etc., etc. Donc les clés de l'énergie dans la vie de tous les jours, dans la vie des entreprises. Et à partir de ça, de proposer donc au travers d'une dizaine de fiches, donc très, je dirais, décrites par besoin, par usage, de proposer des solutions. Hein, des solutions pour avancer. Il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas de solution miracle. Mais par exemple, je prends l'exemple d'une fiche sur la conservation des pots agricoles. On sait qu'en Afrique, il y a énormément de gaspillage des pots agricoles parce que les marchés sont pas forcément bien régulés. Et donc, on a développé, mais aussi d'autres structures, puisque nous avons associé un certain nombre de spécialistes du sujet à ces fiches. Des solutions ont été développées pour conserver, sécher les produits, les sécher de bonne qualité. Et donc, on présente des exemples de ce qui a été fait dans les entreprises au Bénin, au Burkina Faso, etc.
Alors ces fiches, on peut se les procurer en les commandant sur le site www.gres.eu et c'est gratuit.
Alors c'est gratuit, je pondère tout de suite, c'est gratuit pour les auditeurs, vos auditeurs, nos auditeurs africains.
C'est payant.
Pour les occidentaux, c'est payant.
C'est normal.
Je pense que vous comprendrez la règle.
Alors vous préparez aussi Copenhague.
Oui, comme plein de gens, nous préparons Copenhague, je dois dire que nous le préparons sous un angle un petit peu particulier, sous l'angle de la prise en compte de la pauvreté dans les négociations. C'est-à-dire que globalement aujourd'hui, et l'Afrique, je pense, a été souvent le un petit peu oublié des négociations internationales sur le changement climatique. Ce dont on s'aperçoit, c'est que les outils du protocole de Kyoto ne sont pas adaptés à la lutte contre la pauvreté. Donc on essaie de faire quelque chose pour sensibiliser les acteurs de Copenhague.
Vous reviendrez nous en parler, Alain Guimbaud, parce que GERES, c'est énorme tout ce que vous faites sur le terrain et dans de nombreux pays, donc ça méritera bien une nouvelle venue dans C'est pas du vent.
Pas de problème.
Parce que c'est la fin de la première partie de ce magazine.
La fin de cette première partie, on se retrouve tout à l'heure après une petite pause pour parler du charbon propre. À tout de suite.